Je vais sans plus tarder nous inviter à revenir sur notre cours que nous avons engagé depuis mercredi dernier, le disciple et les tentations. Alléluia. C'est de ça que nous parlons depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier. Et nous avons entamé sur ce thème. Je crois que tu as été béni et que tu continues à être béni. Alléluia. Alléluia. Alors, dimanche, mercredi dernier, nous parlions des tentations. Et nous avons abordé les tentations en évoquant la différence entre l'épreuve et les tentations. Vous vous en souvenez? Alléluia. Nous avons dit que l'épreuve était une difficulté que Dieu permettait pour former un disciple, pendant que la tentation représentait plutôt une attaque sur la vie spirituelle pour éloigner le disciple du Seigneur. Alléluia. Pour éloigner le disciple du Seigneur. Nous avons vu que la tentation place l'homme créé à l'image de Dieu avec une libre volonté devant un choix qui appelle une décision. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir que chaque fois qu'il y a une tentation, c'est l'opportunité pour nous de prendre une décision. La décision d'aller à gauche ou la décision d'aller à droite. La décision de choisir le bien ou la décision de choisir le mal. Alléluia. Dans tous les deux cas, tu es appelé comme ça à manger le fruit de ton choix. Alléluia. À manger le fruit de ton choix. Alors nous avons vu que la Bible, d'ailleurs même nous disait que Dieu ne tente personne, mais que chacun, que nul, quand il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu », parce que Dieu ne peut pas tenter, ne peut être tenté par le mal. Alléluia. Et lui ne tente personne. Jacques chapitre 1, le verset 13. Nous avons vu que le disciple qui s'attend au Seigneur ne doit pas craindre la tentation, ne doit pas craindre que la tentation puisse le ravir des mains du Seigneur. Et que Dieu connaît ce qu'il peut supporter et il contrôle tout. Alléluia. Dieu connaît ce que tu peux supporter et il est au contrôle de tout. Alléluia. Nous avons d'ailleurs lu ce texte formidable du livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, où la Bible nous dit « Aucune tentation ne vous est souvenue qui a été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle qui ne permettra, Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Bien-aimés, nous réalisons en fait que aucune tentation qui survient autour de nos vies ne peut être au-delà de nos forces. Alléluia. Les tentations dans la vie d'un homme, nous l'avons vu, nous avons commencé, et c'est là où je vais revenir. Je vais prendre la suite de ce soir. Nous avons vu que les tentations dans la vie d'un homme venaient de trois domaines différents. Alléluia. Le premier domaine, nous avons dit la tentation de l'intérieur, la tentation de la chair, la tentation de la nature liée à la nature pécheresse. Alléluia. L'homme, et là nous avons vu le premier niveau qui est au niveau du caractère de la chair, mes bien-aimés. L'homme racheté doit apprendre qu'en lui, c'est-à-dire en sa chair, il n'habite aucun bien. Alléluia. Aucun de nous ne doit faire confiance à sa chair. Parce que la chair est du domaine du péché. Alléluia. Rappelez-vous dans le livre de Romains chapitre 7, le verset 5, il dit que car nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Il dit au chapitre 8 du même livre de Romains, chapitre 8, et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Alléluia. Nous avons l'exemple de Caïn, nous avons l'exemple d'Élie, qui, dans des moments de tribulation de sa vie, a dû s'enfuir. Alléluia. Et Romains chapitre 7, le verset 18 à 20, nous dit, oh, maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Le péché qui habite en moi, c'est la nature pécheresse. C'est de la nature pécheresse dont il s'agit. Il dit, car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien, car le vouloir est avec moi, mais accompli le bien, cela, je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Romains chapitre 7, verset 18 au verset 20. Vous voyez, la nature, la chair, la nature pécheresse habite en chacun de nous. Et si nous allons notre chemin avec légèreté, il nous surprendra et porte alors et portera ici des fruits amers, de nouveaux péchés. Et donc la tentation n'est pas un péché en soi. La tentation n'est pas un péché, nous l'avons vu la dernière fois. C'est l'obéissance à la tentation qui est un péché. Tout le monde est tenté, mais c'est la réponse que tu donnes à la tentation qui constitue cela un péché, qui fait de cela un péché. Alléluia. Si par exemple tu es tenté à boire l'alcool et que tu dis non, ce n'est pas un péché. Alléluia. Au contraire, tu mens dans la justice du Seigneur. Amen. Mais si on te tente avec la boisson, l'alcool, et que tu bois, là tu as péché. Alléluia. Tu as péché. Alors, Jacques chapitre 1, le verset 14 au verset 15, nous dit que « Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Bien-aimé, si tu convoites la boisson, la nourriture, si tu convoites la chose d'autrui, alléluia, à ce moment-là, là, et que tu obéis, tu te laisses prendre dans le piège de cette convoitise, bien-aimé, ça devient le péché. Amen. Ça devient le péché. Tu succombes ainsi au péché. Et la Bible dit, puis la convoitise ayant conçu, enfante quoi? Le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. Alors nous devons faire attention à notre caractère. À notre caractère. Alors, à la tentation de la chair, au caractère de la chair, Dieu a aussi prévu une solution pour régler le problème de la chair. Et c'est là où nous allons, par exemple, dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 2, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est une question importante. Aujourd'hui, beaucoup sont morts au péché, mais vivent encore selon le péché, vivent encore dans le péché. Ça veut dire que la chair n'est pas encore morte. La chair n'est pas encore morte. Beaucoup encore, bien-aimés, disent qu'ils sont morts à l'orgueil, disent qu'ils sont morts à la colère. Mais lorsque les situations viennent, on voit le même tonton colère là apparaître. On voit le même tonton convoitise là apparaître. On voit le même tonton boisson, tonton calomnie, tonton envie, jalousie apparaître. Ça veut dire que la chair n'est jamais morte. Il est juste sur anesthésie. Alléluia. Il est juste sur anesthésie. Et l'anesthésie va bientôt finir. Alléluia. Romains 6, le verset 6. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Bien-aimé. Comment le disciple peut-il avoir la victoire dans les tentations journalières qu'il rencontre sur son chemin de foi? Jésus l'a délivré. Jésus l'a délivré de la puissance et de l'esclavage du péché originel. La parole de Dieu atteste qu'il n'a plus besoin d'obéir à jamais à cette convoitise. Le disciple doit donc se considérer comme s'il n'existait plus pour le péché d'hier. Amen. Pour le péché de la chair, il faut qu'il se tienne mort pour lui. Il faut qu'il se tienne mort pour lui. Galates chapitre 5, le verset 16, il dit, mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Ah, vous voyez bien aimé, un des secrets pour vaincre la chair, c'est marcher selon l'esprit. C'est marcher selon l'esprit. C'est se tenir mort pour le péché. c'est se tenir mort pour le péché. Alléluia. Continuons dans Romains. Romains chapitre 6, toujours, à partir du verset 11 au verset 12. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il dit, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous voyez, le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils obéissent aux convoitises de la chair. La chair aime manger, la chair aime boire, la chair aime mentir, la chair aime voler. La chair a déjà été habituée à un certain nombre de choses depuis que tu es né. Du jour au lendemain, il ne peut pas arrêter. C'est une addiction, il est dépendant. Il a besoin de sa dose de mensonges chaque jour. Alors c'est à toi de lui dire, cher, monsieur cher, je n'ai rien à te donner. Aujourd'hui, je vais te sévrer de mensonges. Et je vais te nourrir avec la vérité. Et plus tu vas dire la vérité, plus il va quitter, il va partir. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Le verset 13 dit, ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas. Ne livrez pas. Ça veut dire que beaucoup d'enfants de Dieu livrent leurs membres au péché. Tu sais que tu as un problème avec le mensonge, mais tu ne peux pas rester là où les gens parlent les commentaires qui ne te concernent pas. Tu peux t'asseoir avec les enfants qui ne sont pas ton niveau de vie. Les parents ont les moyens. Alors en t'asseyant avec eux, tu cours le risque de mentir sur ta situation. Non, moi aussi, mon père habite, hein, j'avais un petit que je connaissais. Lui, on fréquentait au lycée, on habitait au même quartier à Brazzaville. Lui quittait, il disait qu'il n'habite pas à Brazzaville, que son famille est à Bonamoussadi, que son père est à Bonamoussadi. Donc, il, chaque jour, il devait quitter Brazzaville pour aller à Bonamoussadi, justifier son mensonge. Alléluia! J'avais un camarade de classe comme ça. Lui, il était l'ami de ceux qui avaient l'argent au lycée. Et quand on quittait l'école comme ça, il disait tout, non. Il était venu me voir, je m'a dit, tu sais, ne dis jamais que toi et moi, on est au même quartier. Si quelqu'un te pose la question, dis que tu ne connais pas. Dis que je suis à Bonamoussadi. Et comme son père l'avait eu dans un âge avancé, il disait que son père, c'est son grand-père. Vous savez, il y a des enfants qui sont... Quand tu les vois, l'écart d'âge avec sa grande soeur, tu peux croire que c'est sa mère. Alléluia. Alors, sa grande soeur était comme sa mère. Alors, il disait que sa grande soeur, c'est sa mère. Et sa grande soeur, là, habitait à l'époque, là, à Bonamoussadi. Donc, il était obligé de marcher à pied pour aller à Bonamoussadi, passer le week-end et revenir en semaine. Pour pouvoir dire, vraiment, moi, je suis aussi un bobo. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Et son père était... Et ce qui l'énervait encore, c'était que son père était un vendeur de tamis. Il vendait son marché Dakar. Amen. Son père vendait le tamis, les tamis. Et ça le dérangeait. Ça le dérangeait. Et quand on disait, mais c'est ton père là-bas, il dit non, c'est mon grand-père. Là, il peut encore excuser. Amen. Vous voyez, beaucoup de personnes, à cause de mauvaises compagnies, se retrouvent à mentir sur leur vie, à livrer les membres à la convoitise. À la convoitise. Oui, bien-aimé. Si tu exposes ta vie aux gens, tu seras obligé pour leur ressembler d'entrer dans des choses que tu ne peux pas maîtriser. Alléluia. Que tu ne pourras pas maîtriser à la fin. Galates chapitre 2, le verset 20, Paul dit que quoi? Il dit, je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Dans une autre verset, il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Galates 2, le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Je reprends la lecture. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez? C'est la victoire. La victoire sur la chair. La deuxième clé pour vaincre les tentations de la chair, c'est mettre le Seigneur au centre de sa vie. Alléluia. Le Seigneur est l'homme parfait. Il n'a pas connu de péché. Étant entièrement d'une nature divine, il n'a pas connu la puissance d'une nature pécheresse. Il lui était donc impossible de mentir. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, bien-aimé? Paul dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimé. Alors, pour vaincre la chair, tu as juste besoin de laisser Jésus prendre la première place. Laisser Jésus prendre la première place dans chaque aspect de ta vie. Alléluia. Dans chaque aspect de ta vie. Et c'est là où beaucoup de gens ne font pas l'effort. 1 Pierre chapitre 2, le verset 22. Pierre dit ceci. Il dit, lui qui n'a point connu de péché et dans la boue duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Vous voyez? Hébreux chapitre 4, le verset 15. Hébreux chapitre 4, le verset 15. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alléluia. Il a été tenté en quoi? Hein? Je n'entends pas. Il a été tenté en toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas un domaine de ta vie que Jésus n'a pas été tenté dans cela. Donc, tu n'auras aucune raison lorsque tu te retrouveras devant le Seigneur pour dire, ah, Seigneur, ça, c'est parce que tu ne connais pas le genre de tentation, si, hein? C'est parce que tu ne... Non. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Vous voyez, bien-aimé, prétendre que cette tentation n'avait aucun sens s'il ne pouvait pécher est un argument bizarre. L'un des buts de la tentation consistait précisément à démontrer de manière décisive que Jésus ne pouvait pas pécher. Alléluia. Alors, Jésus étant le vase qui n'a pas connu le péché, il est mieux placé pour nous aider à triompher de la chair. Alléluia. À triompher des tentations. Deuxième domaine. Les tentations. La tentation du monde. Oui, bien-aimé. La tentation du monde. Premier niveau de la tentation du monde, c'est le caractère de la tentation du monde, bien-aimé. Le monde caractérise le système démoniaque sous Satan. Vous voyez ce monde dans lequel Jésus dit que le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui, de moi en lui. Alléluia. Il n'y a rien de lui. De moi en lui. Jean chapitre 14, verset 30. Vous voyez, le prince de ce monde. Quand il parle de ce monde, il ne parle pas du Cameroun. Il ne parle pas des États-Unis. Le monde ici, c'est un système. C'est un système de pensée. Vous allez constater que quel que soit le lieu sur la terre où vous vous placez, les gens aiment toujours la corruption. Amen. Vous allez constater que partout où vous allez vous retrouver sur la terre, les gens volent toujours. Vous allez trouver que partout où vous vous trouvez sur la terre, les gens aiment toujours la fornication. Amen. C'est ce système dont il s'agit. Le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 8 et 9, la Bible dit, le diable va transporter Jésus sur la plus haute des montagnes et il va lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire. Et la Bible dit qu'il va demander une seule chose à Jésus. Prosterne-toi. Prosterne-toi. Donne-moi la gloire. Et je te donnerai toutes ces nations. Voyez, bien-aimé. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, le Dieu de ce monde a aveuglé les pensées des incrédules. Le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle. Alléluia. Donc, vous comprenez ici que la tentation du monde, c'est la tentation liée au système du monde. Aujourd'hui, si tu te retrouves avec des amis quelque part, tout le monde va avoir l'intention de boire l'alcool. Et quand tu vas dire non, moi je ne bois pas, dis donc, quitte de là. Tu brises le système. Le système, c'est que lorsqu'on se retrouve quelque part, on doit boire jusqu'à ce que l'argent finisse nos poches. Amen. Le système, c'est que lorsqu'on se retrouve quelque part, chacun doit avoir une femme quelque part, en dehors de sa femme. Alléluia. Chacun doit avoir. Et quand tu dis, non, non, moi j'ai que ta femme, tu veux prouver que quoi? Vous voyez, le système t'exclut. Chaque fois que tu es différent, le système t'exclut. On te conteste. Tu crois que tu es qui? Tu crois que tu vas t'en sortir? Laisse-moi tes choses là. Tu me dis que tu es trop sain. Alléluia. Les gens te reprochent de marcher dans la vérité. C'est bizarre, n'est-ce pas? Quand tu buvais les alcools jusqu'à tu tombais dans les caniveaux, on dit que vraiment, on ne comprend pas l'homme-ci. S'il pouvait laisser l'alcool. Mais le jour que Jésus t'en délivre, on dit pourquoi tu laisses l'alcool? Et ça, c'est normal. Et ça, un homme doit rester sans boire. Un homme, c'est être sourd. Amen. Donc, le système t'exclut chaque fois que tu veux marcher dans la pensée de Dieu. Alléluia. C'est quoi Jésus va dire? L'apôtre Jean va dire dans 1 Jean 2, le verset 15 à 17. Il dit, n'aimez pas le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien aimé. L'amour du Père n'est point en lui, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais du monde. Vous voyez les armes du monde. Le monde a enfanté 3 enfants dangereux. Le premier enfant qu'il a enfanté, c'est la convoitise de la chair. Le deuxième, la convoitise des yeux. Tout ce que tes yeux voient, tu veux prendre. C'est pourquoi il y a le vol. C'est pourquoi il y a les mensonges. Le troisième, l'orgueil de la vie. Tu veux prouver que tu es quelqu'un que tu n'es pas. Tu veux prouver que tu veux prouver que toi aussi, tu peux venir à l'école avec beaucoup d'argent. Tu veux aussi prouver que toi aussi, tu peux aussi t'acheter tel petit déjeuner à la pause. Non. C'est l'orgueil de la vie. C'est l'orgueil de la vie. Et ce sont les enfants, les petits-enfants de Satan. Amen. Alléluia. Et donc, nous comprenons que le péché venant de ce monde essaie de pénétrer dans nos cœurs par la porte de nos cinq sens. La vue, lui, le goût, l'odorat et le toucher sont les cinq portes où le danger nous guette en permanence. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tes yeux voient, à ce que ta bouche dit, à ce que tes narines hument, à ce que tes oreilles entendent, à ce que ta langue goûte. Alléluia. Tu dois faire attention. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de circuler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de construire des nids dans nos cheveux. Vous voyez? Ce qu'on a l'habitude de dire, le premier regard n'est pas un péché, c'est le deuxième. Amen. C'est le deuxième. Rappelez-vous d'Acan, la convoitise des yeux. Il a vu, alors qu'il avait reçu l'instruction. Tout le monde avait reçu l'instruction de ne pas prendre rien de ce pays-là. Mais il a pris. Josué chapitre 7, le verset 21. Et à cause de ça, le trouble est rentré dans sa famille. 1 Timothée chapitre 6, le verset 9. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège. Et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plombent les hommes dans la ruine et la perdition. Voyez, bien aimé. Alors que nous parlons de la tentation du monde, nous devons également savoir que Jésus a prévu une solution. Alléluia. Jésus a prévu une solution pour nous donner la victoire sur la tentation du monde. Et il est important que un disciple échappe à de telles tentations par une seule arme. Alléluia. Est-ce que je peux vous donner la clé de l'âme? L'âme que vous devez utiliser devant le monde. Alléluia. La fuite. La fuite. Il n'y a pas deux âmes. Joseph a fui devant maman Potiphar, qu'elle lui a offert le monde. Alléluia. Genèse chapitre 9, le verset 7 à 12. Paul dit, fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, le verset 18. 1 Timothée 6, 11. Il dit, mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Alléluia. Vous voyez, toujours le verbe fuir qui revient. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 22. 2 Timothée 2, 22. Il dit, mais fuis les convoitises de la jeunesse. Je parle à nos jeunes. Alléluia. Fuis les convoitises de la jeunesse. Quelles sont ces? Il dit, et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Tite chapitre 2, le verset 11 à 12. Tite 2, 11 à 12. Il dit, car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que régnant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le siècle présent sobrement et justement et pieusement. Alléluia. Vous voyez? 2 Pierre chapitre 1, le verset 4. Il dit, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Et bien aimé, la fuite est une règle pour fuir, pour échapper à la tentation du monde. Bien aimé, tu sais que si tu t'assois, tu vas boire les bières. Fuis de là. Alléluia. Fuis. Le disciple qui ne veut pas se souiller dans le monde rencontrera toujours la persécution. Rencontrera toujours la persécution. 1 Jean 3, le verset 13. Il dit, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Alléluia. Le monde vous hait. Jean 17, le verset 14. Il dit, moi je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Alléluia. Donc vous comprenez que plus vous allez marcher dans la vérité du Seigneur, plus les hommes vont vous haïr. C'est la norme. Si les hommes vous aiment, posez-vous des questions si vous êtes sur le droit chemin. Alléluia. Ça, quand je parle de ça, j'exclus les chrétiens qui aiment les problèmes. Hein? Parce qu'il y a les chrétiens qui eux-mêmes créent les problèmes pour avoir la persécution et justifier leur foi. On me persécute parce que j'aime la prière. Non. Tu es mal élevé. Alléluia. Tu es un chrétien mal élevé. Il y a des chrétiens qui bagarrent dans les quartiers. Il y a des chrétiens, lorsque tu leur donnes le poids, ils t'insultent jusqu'à ce que tu dis que mais. Tu dis que tu vas à l'église. Alléluia. Le vieil homme n'est pas mort. Il est en vie. Il dort seulement. Le jour-là, il s'est réveillé. Alléluia. Et bien aimé. Tout le monde sait que la seule chose à faire des mauvaises herbes est de les arracher. Alléluia. Car bien vite, elles étoufferaient les bonnes plantes. Quoi que nous fassions pour elles, elles resteront toujours des mauvaises herbes. Mais nous ne sommes pas obligés de les laisser. Arrachons-les. Autrement dit, ne joue pas avec le péché, mais agis résolument contre lui. Alléluia. Agis résolument contre lui. C'est très important. Matthieu 18, le verset 8. Matthieu 18, le verset 8. Le Seigneur dit quoi? Il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Alléluia. Vous voyez la radicalité de l'œuvre. Vous voyez la radicalité, bien-aimé. Lorsque tu sais que tel péché, c'est ton problème, tu es radical avec. Alléluia. Quand tu sais que telle chose est ta faiblesse, oui, et que des gens veulent t'y amener, sois radical. Mieux, on te tarse de fanatique. Tu sors de là avec la tête haute. Amen. Joseph était radical. Il n'a même pas dit que, ouais, maman, peut-être on va voir un peu demain négocier, parler en langue, invoquer les dieux de son père. Il l'a fui. Alléluia. Et donc nous devons éviter de nourrir les convoitises. Nous devons éviter de nourrir les convoitises. Nous devons priver la vieille nature de ce qu'elle nous demande. Les convoitises. Mais donnons à la nouvelle vie qui est en nous toute chance de grandir en la nourrissant par l'étude de la parole de Dieu. David pose une question importante dans le psaume 119, le verset 9. Comment un jeune homme rendra-t-il pur sa voix? Alléluia. Psaume 119, le verset 9. Il dit, comment un jeune homme rendra-t-il pur sa voix? Il dit, ce sera en y prenant garde selon ta parole. C'est en marchant selon ta parole. Alléluia. Psaume 119, toujours, le verset 11. Il dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche point, afin de ne point pécher contre elle. Alléluia. Vous voyez? Nous devons fuir. Et le Seigneur Jésus lui-même est une clé pour vaincre la tentation. L'homme parfait qui trouvait son plaisir entier en faisant la volonté de son Père disait que le monde n'avait rien en lui. Alléluia. Le monde n'avait rien en lui, mes bien-aimés. Une fois de plus, je voudrais nous inviter à donner la première place de manière quotidienne au Seigneur. Au Seigneur. Alléluia. Au Seigneur. Jean chapitre 5, le verset 41. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Alléluia. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Jean 14, le verset 30, il dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient et il n'a rien en moi. Bien-aimé, si le diable vient maintenant, il ne trouvera pas ses effets dans ton cœur. Alléluia. Si le diable vient maintenant, est-ce qu'il ne trouvera pas ces choses en toi? Est-ce que tu peux dire comme Jésus, si le prince de ce monde vient, il ne trouvera rien de lui en moi? Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 8, le verset 23. Il dit, et il dit, vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Troisième domaine de tentation. Je vous ai dit trois domaines de tentation, n'est-ce pas? La tentation de la chair, la tentation du monde et la tentation par la ruse de Satan. Amen. Et la tentation par la ruse de Satan. Oui, bien-aimé, le diable ne doit pas être ignorant. Le disciple ne doit pas être ignorant de l'activité de Satan. La stratégie de l'ennemi est connue. Et c'est pourquoi le disciple doit prier que le Seigneur le protège contre les attaques d'en bas. Les attaques des ruses de l'ennemi. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens 2, chapitre 11. 2 Corinthiens 2, le verset 11. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Mais tu ne dois pas ignorer les desseins. Tu ne dois pas ignorer les stratégies de l'ennemi. Alléluia. Oui. Matthieu chapitre 6, le verset 13. Il dit, et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Mais délivre-nous du mal, bien-aimé. Il est important pour nous de comprendre que le diable ne peut tenter qu'avec la permission de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous de l'histoire de Job, Job chapitre 1, le verset 12. Satan va demander à l'Éternel de lever sa main. De lever sa main sur Job et dit, voici tout ce qu'il a est en ta main. Seulement, si tu n'étendras pas ta main sur lui. Alléluia. Le diable a demandé à Dieu l'autorisation de tenter Job. Alléluia. Rappelez-vous dans le livre de Luc chapitre 22, le verset 31 et le verset 32. Luc 22, 31 à 32. La Bible dit, et c'est Jésus qui dit à Simon, Pierre, il va dire, Simon, Satan t'a réclamé pour te cripler. Alléluia. Satan t'a réclamé, t'a demandé pour te cripler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, ne faillisse point. Alléluia. Vous voyez que Satan ne peut pas te tenter sans l'autorisation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, le caractère, nous avons dit en premier niveau, nous parlons maintenant du caractère de la tentation de Satan. Alléluia. Cet ennemi s'approche du racheté. Satan s'approche du disciple bien-aimé sous trois aspects ou masques différents. Sous trois aspects ou masques différents. Le premier masque que Satan utilise, c'est le serpent fuyant. Alléluia. Le serpent fuyant. Dans une autre version, on parle du serpent sifflant. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, le verset 29. Apocalypse 12, le verset 9, pardon. Apocalypse 12, le verset 9. Il dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc nous parlons ici du serpent ancien, du serpent fuyard. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 1, nous voyons le Satan venir tenter nos parents dans la foi. Alléluia. Donc, nos premiers parents. Alors, vous voyez que Satan contredit la parole parce qu'il est le père du mensonge. Alléluia. Il est le père du mensonge. Alors, il est important pour nous de comprendre que la première casquette de Satan, c'est sous la manifestation d'un serpent. Et le serpent, ce qu'on appelle la langue fourchue. Alléluia. Quand on dit de quelqu'un qu'il a une langue fourchue, ça veut dire que c'est un menteur. C'est quelqu'un qui joue avec la vérité. Alléluia. C'est quelqu'un qui joue avec la vérité. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 44, que Satan manque depuis le commencement. Alléluia. Qu'il manque depuis le commencement. Et donc, il n'y a rien de bon à lui. Il est le père du mensonge. Alléluia. La deuxième casquette sur laquelle le diable opère contre la vie des disciples, c'est l'ange de lumière. Alléluia. C'est l'ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens 11, le verset 14. La Bible nous informe là-bas, et c'est Paul qui dit que le diable lui-même se transforme en ange de lumière. C'est déguise. Amen. C'est déguise en ange de lumière. Alléluia. Et Satan et ses anges essayent comme ça de mélanger, de mixer la vérité de Dieu avec le mensonge. Alléluia. Avec le mensonge. Vous voyez, il apporte à côté de la Bible quelque chose d'apparemment nouveau et d'aussi bon. Vous voyez, c'est quoi beaucoup d'entre nous, nous sommes allés chez des marabouts qui avaient même la Bible. Alléluia. Ils disaient que non, eux, ils viennent de Dieu. Voilà pourquoi ils ont la Bible. Ils peuvent utiliser la Bible, le Coran, pour te traiter. Alléluia. Tu pouvais voir les livres dits sacrés dans son sanctuaire. Amen. Beaucoup de gens, ce n'est pas parce que les gens portent la Bible qu'ils sont de Dieu. Hein? Même le diable connaît la Bible mieux que quiconque, mieux que tout enfant de Dieu. Alléluia. Regardez que lorsque Satan a attaqué, est venu tenter Jésus, il n'a pas utilisé la sorcellerie, le vampirisme, l'argent facile. Amen. Il n'a pas utilisé le ritual money. Non. Il a utilisé quoi? La parole. La parole. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. Lorsqu'elle est déformée, elle n'agit plus. C'est quoi? Une des activités de la sorcellerie, c'est de tordre la vérité. Un sorcier, c'est celui qui tord la vérité. C'est quoi la définition de sorcier? C'est celui qui tord. Qui tord la vérité. Alléluia. Ce n'est pas celui qui vient bouffer ta chair et boire ton sang. Non. Celui qui tord la vérité. Il obscurcit la vérité. Alléluia. Il obscurcit la vérité. C'est quoi? Le diable est le premier sorcier de la terre. Amen. Amen. Donc, il est important pour nous de comprendre que nous devons faire attention à cette casquette de Satan qui est de tronquer la vérité par le mensonge. Sur quoi il se déguise en ange de lumière. En ange de lumière. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, le verset 9, la Bible dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. Qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'il m'honore. Matthieu 15, le verset 9. Alléluia. Matthieu 16, le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez? Chaque fois que les pensées des hommes s'incrustent dans la parole de Dieu, ça vient du diable. Ça vient du diable. C'est pourquoi tout ce que vous entendez dans nos villages, dit, les ancêtres ont toujours dit qu'on fasse comme ça. Les parents, ça vient du diable. Ça vient du diable. Ah ah, c'est comme ça que nos pères ont toujours fait. Tes pères ont quel référent de vérité? Alléluia. Tes pères ont quelle référence de vérité? Ils n'ont aucune référence de vérité. Alléluia. Amen. 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4. À partir du verset 1 et 2. Il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voyez, dans une autre version, on dit, oh, l'Esprit dit expressement qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des enseignements des démons disant des mensonges par hypocrisie. Voyez, c'est compliqué, n'est-ce pas? La troisième casquette que le diable va utiliser, bien-aimé, c'est le lion rugissant. Premier, serpent fuyant. Deuxième, ange de lumière. Troisième, lion rugissant. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 nous informe là-bas que le diable, qui est notre adversaire, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Vous voyez, il se présente comme un lion rugissant et s'attaque aux disciples, aux rachetés. Et il veut tourmenter les croyants par des souffrances et les menacer de la mort du corps. Vous voyez, sur quoi nous devons faire attention. Le diable, encore une fois de plus, tronque la vérité. Il déguise la vérité. Il fait comme un lion qu'il n'est pas. Alléluia. Faire comme un lion ne veut pas dire que tu es un lion. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais il peut imiter le lion. Il peut imiter la manière du lion de fonctionner. Il peut imiter le rugissement du lion. C'est pourquoi beaucoup de gens se laissent tromper. À côté de ça, rappelez-vous, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion authentique. Alléluia. Il est le lion authentique. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12. À 13. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12 à 13. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous voyez, le Seigneur nous invite ici dans les tribulations auxquelles nous sommes confrontés, dans les tentations, de nous réjouir. Parce qu'à la fin de tout cela, nous aurons une récompense avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. C'est très important. Et comment résister? Comment avoir la victoire sur les ruses du diable, bien-aimé? Premièrement, en résistant. La résistance est très importante. J'aime beaucoup ce texte de Jacques, chapitre 4, le verset 7. Alléluia. Jacques 4, le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Je vous ai dit, la première clé, c'est quoi? La résistance. Alléluia. Mais la deuxième clé, qui peut être considérée même comme la première, c'est la soumission à Dieu. Bien-aimé, quand tu te soumets à Dieu, tu as la possibilité, tu as la puissance pour pouvoir résister au diable. Alléluia. pour pouvoir résister aux tentations du diable. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La conséquence, c'est qu'il va faire comment? Fuir. Alléluia. Résistez. Résistez. 1 Pierre 5, le verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. La deuxième chose pour résister au diable, c'est la foi. La foi ferme. Alléluia. La foi ferme. Il dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Dans le monde. La troisième clé, bien-aimé, nous la retrouvons dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 9, le verset 27. Éphésiens 4, le verset 27. Qu'est-ce que Paul dit encore là? Il dit ceci. Et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés, nous ne devons pas donner accès. Oui, rappelez-vous de ce que nous avons lu tout à l'heure. De ne pas donner, livrer nos membres au péché. Alléluia. Tu ne dois pas donner accès au diable en te mettant, en livrant tes membres au diable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et donc, l'arme fatale, résister. La foi faible, ne pas donner accès. Alléluia. Ne pas donner accès. Et la dernière arme, allons-y dans le livre d'Éphésiens, toujours le chapitre 6. Nous le retrouvons dans le verset 10 au verset 11. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Nous devons nous revêtir de quoi? De toutes les armes de Dieu. Alléluia. De toutes les armes de Dieu. Pour connaître ces armes, tu vas à partir du verset 13 du même livre d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 13 au verset 17. Amen. Au verset 17, tu vas voir toutes les armes de Dieu. Alléluia. Tu vas voir toutes les armes de Dieu qui sont la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les ailes de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Qui est la parole de Dieu. Vous voyez, bien-aimés. Sur quoi je vous invite, je nous invite, chacun pour sa part, à faire attention à ces choses, bien-aimés. À faire attention à ces choses. Amen. Amen. Et tout ce que je vous ai cité, vous verrez ça dans la vie du Seigneur, qui l'a permis de résister aux ruses du diable. Alléluia. Alors, quelles sont les ressources que nous avons pour une vie victorieuse, une vie chrétienne victorieuse sur la tentation? Qu'est-ce que Dieu nous donne comme clé pour pouvoir avoir une vie victorieuse? Première clé que Dieu nous donne, bien-aimé, c'est notre position en Christ. Il est important de connaître sa position en Christ, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, dit, « Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ. » Voyez, Éphésiens 2, le verset 6, « Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans Christ Jésus. » Alléluia. Donc, il est important de comprendre ta position en Christ. Éphésiens 2, 6. Amen. Éphésiens 2, 6, 2 Corinthiens 4, le verset 14. 2 Corinthiens 4, le 2 Corinthiens 2, le verset 14, bien-aimé. 2 Corinthiens 2, le verset 14. Amen. Romains 8, le verset 37. Romains 8, le verset 37. Alléluia. 1 Jean 5, le verset 4 à 5. 1 Jean 5, le verset 4 à 5. La Bible dit, c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, à savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu auras la victoire sur le monde, sur le diable. Alléluia. Deuxième clé que le Seigneur nous donne pour avoir une vie victorieuse, c'est l'aide et la force du Seigneur. L'aide et la force du Seigneur. L'aide et la force.
ou bien le secours et la force du Seigneur. Alléluia. Le secours et la force du Seigneur. Hébreux chapitre 2, le verset 18. Hébreux 2, 18 dit ceci. Il dit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Dieu peut te secourir, Jésus peut te secourir parce qu'il a résisté devant toutes sortes de tentations. Alléluia, Jésus peut te secourir. Alléluia. Allons-y dans le livre de Philippiens, Philippiens 4, le verset 13. Philippiens 4, le verset 13. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie, bien-aimé. Oui, ce n'est pas toi qui dois faire l'effort. Donne l'opportunité au Seigneur de t'accompagner, de t'aider à sortir de là. Alléluia. Hébreux 4, le verset 15. Hébreux 4, le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alléluia. Ça, c'est notre deuxième arme. Troisième arme. La prière de Jésus. Alléluia. La prière de Jésus. La prière de Jésus. Jean 17, le verset 15. Jean 17, le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Oui, le Seigneur a prié pour toi, afin que tu sois préservé du mal. Alléluia. Allons-y dans le livre de Luc. Luc chapitre 22, le verset 32. Luc 22, 32. Luc 22, le verset 32. Qu'est-ce que cela dit? Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Vous voyez qu'à chacun de ces textes, nous voyons la prière que Jésus élève à notre endroit. Alléluia. La prière que Jésus élève à notre endroit. Hébreux chapitre 7, le verset 25. Hébreux 7, le verset 25. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder comment? En leur faveur. Alléluia. Jésus intercède toujours en ta faveur. Il dit, Jésus intercède toujours pour toi en ta faveur. Jésus intercède encore pour toi. Jésus intercède pour toi. Jésus intercède pour toi. Et c'est pourquoi tu ne peux pas échouer. Au nom de Jésus. Quatrième arme que le Seigneur nous donne pour avoir une victoire, une vie victorieuse. L'armure complète de Dieu. Amen. L'armure complète de Dieu. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu, par Dieu pour la destruction des forteresses. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10, le verset 14. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, contre les dominations des ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenez ferme. Tenez donc ferme, ayez saint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice. Jusqu'au verset 18. Amen. Éphésiens 6, du verset 12 au verset 18. Donc, nous pouvons voir ici que l'armure complète, bien-aimé. Le problème pour nous, c'est que nous ne revêtons pas toute l'armure de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on échoue dans beaucoup de nos batailles. Cinquième clé. Cinquième clé. Le pardon et la restauration pour celui qui est tombé. Le pardon et la restauration pour celui qui est tombé. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. 1 Jean 1, le verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous pardonner, nous purifier de toutes nos iniquités. Alléluia. Donc, il est important pour nous de réaliser que lorsque nous péchons, nous avons un maître, nous avons un intercesseur devant le Seigneur. Et que notre but, c'est de confesser pour qu'il nous accorde l'absolution. Alléluia. Et d'ici, quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. 1 Jean 2, le verset 1. Ainsi que celui qui croit être debout, prenne garde qu'il ne tombe. Alléluia. Prenez garde qu'il ne tombe. C'est pourquoi vous devez marcher, bien-aimé, et ne pas vous moquer des autres. Parce que tu es debout comme ça, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta grâce, ce n'est pas par ton intelligence. Alléluia. C'est pourquoi tu dois faire attention. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. 1 Corinthiens 10, le verset 12. Car c'est par la foi que vous êtes debout. C'est par la foi que vous êtes debout. 2 Corinthiens 1, le verset 24. 2 Corinthiens 1, le verset 24. Car le juste tombe sept fois et se relève. Proverbe 24, le verset 16. Proverbe 24, le verset 16. Sixième clé. Sixième clé. La toute-puissance du Seigneur. Alléluia. La toute-puissance du Seigneur. Oui, bien-aimé. Il est important que vous compreniez que Dieu permet la tentation car elle constitue une épreuve de la foi destinée à fortifier le disciple. Alléluia. Destinée à fortifier le disciple et à lui révéler la toute-puissance de Dieu. Alléluia. La toute-puissance de Dieu. Comment tu vas savoir que Dieu est grand si il ne te délivre pas de certaines batailles étranges de ta vie? Alléluia. Jacques chapitre 1, le verset 2 et 4. Jacques 1, 2 et 4. 1 Corinthiens 10, 13. Vous voyez? Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez ces derniers versets nous montrent que la tentation est humaine, c'est-à-dire qu'il n'est pas seul. Amen. Beaucoup d'autres gens sur la terre vivent les mêmes tentations que toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Deuxième chose. Dans ce verset que Paul dit, Dieu est fidèle. Ah oui, la fidélité de Dieu dépend de la fidélité des hommes. Là où les hommes vont t'abandonner, Dieu va rester. Il va te tenir la main. La troisième chose que nous remarquons dans ce texte, c'est que la tentation est contrôlée par Dieu. Il connaît tes limites. Amen. Il connaît tes limites. Dis à ton voisin, Dieu connaît tes limites. Dieu connaît tes limites. Regardez le troisième élément qui sort de là. Le Seigneur donne la solution et les moyens d'en sortir. Les moyens pour s'en sortir. Et la dernière chose qui ressort, c'est que ainsi donc, la tentation est donc supportable. Amen. 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 Bien-aimés, si nous appliquons ces clés-là, la victoire est pour nous. J'ai dit la victoire est pour toi, la victoire est pour moi. Au nom de Jésus. Et la tentation ne pourra plus résister devant nous. Au nom de Jésus. La tentation, nous la transformerons en épreuve qui fortifiera notre foi. Amen. Amen. Chaque jour, beaucoup d'entre nous sont sujets à des tentations. Tentation au travail. Tentation au quartier, tentation dans la famille, et si on est marié, tentation dans la belle famille, alléluia, tentation dans les amitiés, dans les relations, tentation à l'école, à l'université, tentation, je ne sais pas moi, dans des trains, dans des voyages, dans des bus. Bien-aimé, pose-toi la question. Jusqu'à quel niveau je vais continuer à me laisser entraîner dans les tentations. Alléluia. Vous allez voir beaucoup de gens chaque jour venir à l'église. Ah papa, prie encore pour moi. Je suis encore tombé. Je suis encore tombé. Chaque jour, je veux le tombe. Tu as même déjà dépassé 7 fois. Amen. La Bible dit 7 fois. Toi, tu es déjà à 14. Alléluia. Tu es déjà à 20. Alléluia. La Bible dit, mon juste tombe combien? Hein? Combien? Et qu'est-ce qui se passe? Il le relève. Bon, maintenant, si tu dépasses 7 fois, qui va te relever? Donc fais tout pour rester dans 7. Amen. Donc ta dernière tentation doit être la 7e fois. Si tu es à 8, sache que vraiment, le tout si, tu vas te relever seul. Amen. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Regardez. Quand c'est 7 fois, tu as encore les capacités pour t'en sortir. Quand c'est dans 8 fois, tu dois aller chercher de l'air. Tu es possédé. Tu es sous l'emprise. Tu es sous l'influence. Ça veut dire que la force de la tentation est au-dessus de la tienne. Et tu as besoin de quelqu'un qui a une grâce au-dessus de la tienne pour pouvoir te sortir de là. Alléluia. Alors même si tu es déjà à 14 fois, ne fuis pas la maison de Dieu. Même si tu es déjà à 20 fois, viens toujours crier. Oh Dieu. Alléluia. Il va te donner de l'aide. Il va te donner le secours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier. Beaucoup de personnes qui sont aux côtés de moi, ils sont déjà, je ne sais plus combien de tentatives, de nombre de tombées qu'ils ont eues. Alléluia. Mais ils sont toujours là. Alléluia. Le secret, bien-aimé, et le piège que nous avons le plus souvent, c'est que nous fuyons la maison de Dieu. Et quand tu fuis la maison de Dieu, tu deviens une proie facile. Amen. Quelle que soit la tentation que tu subis et qui te rafle sur le chemin, ne fuis pas la maison de Dieu. Parce que ce n'est que dans la maison de Dieu que tu pourras t'en sortir. Si tu fuis la maison de Dieu, c'est fini. Qu'est-ce qui a fait que Adam a échoué? Il a fui la présence de Dieu. Amen. Le Seigneur est venu comme d'habitude. Adam, Adam, il n'était plus là. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Reste là. Dis Seigneur, aide-moi. Quelle que soit la tentation, ce soir, je viens présenter ma tentation devant ton trône. Aide-moi à sortir de là. Au nom de Jésus, aide-moi à sortir de cette situation, à sortir de ce péché qui m'enveloppe si facilement et m'empêche de m'épanouir dans ta présence, dans ta maison. Oh Dieu, lève-toi pour moi. Fortifie-moi. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi-même.